Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Walid Selman, bonsoir.
Bonsoir Hakim, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition, c'est un engagement du président de la République qui a été tenu. Chargé par le chef de l'État, le Premier ministre a présidé la cérémonie de lancement des travaux du projet d'exploitation et de valorisation de la mine de zinc et de plomb située dans la villa de Béjaïa. C'est un projet structurant, un début d'exploitation prévu pour fin 2028, capacité de production de 2 millions de tonnes de plomb et de zinc, 3 000 emplois créés à terme. 18e jour de l'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient. L'information n'est pas encore confirmée par Téhéran. Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, aurait été assassiné après des frappes sionistes menées dans la nuit, des agressions qui se poursuivent également au Liban. L'ambassade américaine à Bagdad, une nouvelle fois ciblée. Forte explosion également au centre de l'entité sioniste Al-Quds occupée. Une guerre qui provoque des dissensions au sein de l'administration américaine. Un haut responsable de la lutte contre le terrorisme annonce sa démission pour protester contre la guerre menée contre l'Iran. Joseph Kent affirme que la République islamique ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Les candidats aux examens de fin d'année fixés sur les dates des épreuves. Les épreuves du brevet de l'enseignement moyen se dérouleront du 19 au 21 mai. Les épreuves du baccalauréat auront lieu du 7 au 11 juin. Nous nous intéresserons au dispositif spécial fête de l'Eid al-Fitr. Commerçants, transporteurs et agents de station-service seront à leur poste pour assurer la continuité des services. Très attendu, le chassé-croisé habituel sur nos routes. Prudence et vigilance, maître mot, la protection civile lance une campagne de sensibilisation. Et puis en sport, début de la 24e journée de Ligue 1 avec deux matchs disputés. Olympique Akbou 1, CS Constantine 0, Espérance de Mossaganem 3, Paradou AC 2. Deux autres matchs à partir de 22h. Moudia d'AGUSM Khenchla, Moudia d'Oran, Moudia d'Albayad. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un engagement tenu qui permettra à l'Algérie de se positionner à l'échelle internationale. Chargé par le président de la République, le Premier ministre a présidé ce matin la cérémonie de lancement des travaux du projet d'exploitation et de valorisation de la mine de zinc et de plomb située entre les communes d'Amizour et de Tala Hamza dans la wilaya de Béjaïa. Faire du secteur minier un levier stratégique du développement économique durable, un cap fixé par le président de la République, il s'agit de diversifier l'économie nationale, l'unique voie pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de travail de Sifer Rayib dans le wilaya de Béjaïa. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Rimbo Kadoum.
Le Premier ministre Sifer Rayib a souligné que le projet de zinc et de plomb constitue une étape majeure pour l'Algérie, illustrant l'engagement ferme de l'État et traduisant une stratégie politique ambitieuse pour relancer l'économie nationale.
Nous considérons ce signal comme un message fort marquant une nouvelle étape dans le processus de relance de l'économie nationale et du développement d'une économie hors hydrocarbures. C'est un jour que l'on peut qualifier d'historique pour l'Algérie. Le lancement était prévu à la fin du mois de mars. L'engagement du président de la République a été tenu.
Le Premier ministre a souligné que ce projet est un levier stratégique pour valoriser les ressources minières nationales et positionner progressivement l'Algérie parmi les producteurs capable de rivaliser avec les pays déjà actifs dans ce secteur.
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont commencé dans cette mine qui apportera une valeur ajoutée en termes de ressources que l'Algérie mettra sur le marché international. Cela permettra également à l'économie nationale de se positionner sur la scène mondiale des matières premières, lesquelles, comme vous le savez, sont devenues récemment un pilier économique majeur et un enjeu de coopération entre les différents pays détenteurs de richesses minières.
Et enfin, le Premier ministre a indiqué que l'Algérie avance selon une stratégie claire et constante visant à réduire la dépendance à la rente pétrolière à travers la concrétisation sur le terrain des projets structurants contribuant à la diversification de l'économie nationale. De Béjaïa, Rimbo Kadoum, Alger Chaîne 3.
Et c'est là un projet structurant. Plusieurs étapes sont à réaliser avant l'entrée en service. Un début d'exploitation prévu pour fin 2028. Reda Belhadj, président directeur général de la SONAREM, la Société nationale de recherche et d'exploitation minière, il est au micro de Rimbo Kadoum toujours.
Aujourd'hui, on assiste au coup d'envoi de l'ouverture de la mine. Par la suite, on va entamer les travaux pour la construction de cette mine et en parallèle, entamer la construction de l'usine de concentration qui va nous permettre de valoriser le minerai qu'on va extraire de cette mine. Comme vous le savez, c'est une mine qui va être exploitée à une profondeur de 600 mètres qui est très considérable. C'est une occasion pour nous d'avoir cette compétence d'une part, mais aussi de couvrir les besoins nationaux en termes de zinc principalement et vendre le surplus sur le marché international. Donc on espère démarrer cette usine et l'exploitation de la mine fin 2028.
Et avec des capacités de production de 2 millions de tonnes de plomb et de zinc, c'est une nouvelle réalisation qui vient traduire dans les faits cette vision stratégique amorcée avec le méga projet de la mine de Garajbillet en attendant l'entrée en exploitation prochainement du projet de phosphate de l'est du pays, le tout concourant au renforcement de la diversification de l'économie nationale et par ricochet du renforcement de la souveraineté industrielle. Najiba Bourenen, directrice générale des mines au ministère des hydrocarbures, au micro de Rimbaud Kadoum toujours.
On aura d'abord une valeur ajoutée pour la diversification économique du pays et pour encourager la croissance économique, une production de 170 000 tonnes de concentré de zinc annuellement et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Le cours du zinc et du plomb à l'échelle internationale actuellement, où il a atteint pour le zinc 3 300 $ et pour le plomb 1 850 $, donc ça va vraiment développer l'économie du pays. Dans une première étape, il y aura fabrication des concentrés de zinc et de plomb. Dans une deuxième étape, il y aura l'affinage de ces produits qui vont intervenir dans tous les secteurs industriels à l'échelle nationale et internationale.
Justement, le minerai extrait de ce gisement sera transformé pour une valeur ajoutée plus importante, une activité qui permettra de créer un écosystème composé d'un réseau de sous-traitants au service de nombreux segments industriels. Sohila Abrahou, économiste.
Ce secteur pourra aussi toucher beaucoup de secteurs économiques. En aval, la transformation et l'industrialisation de la fonderie et la métallurgie, la galvanisation aussi, la fabrication des batteries. Dans la sous-traitance, beaucoup de partenaires économiques bénéficieront de maintenance industrielle, du service géologique, de restauration et aussi des services de sécurité.
Le dossier de ce soir a été signé Rim Boukadoum. Nous restons dans la région de Béjaïa, direction Tizi Ouzou, où le taux de remplissage de nos barrages rassure citoyens agriculteurs avec 60% de taux de remplissage au niveau du barrage de Taxept. La prochaine saison estivale se présente déjà sous de bonnes augures également. D'autres précipitations sont attendues durant cette deuxième quinzaine du mois de mars. Mohamed Haouchine est notre correspondant permanent sur place.
Les grosses pluies et les importantes chutes de neige ont été d'un apport hydrique très appréciable pour la région, puisque l'Oued Sebaou a enregistré de grosses crues, alors que le barrage de Taxept a déjà atteint un taux de remplissage de plus de 60%, soit plus de 100 millions de mètres cubes, sur une capacité globale de 171 millions de mètres cubes, comme nous le confirme le directeur du laboratoire des eaux de l'Université Mouloud Mamri, le professeur Abdelmelek Abdeslam.
Yatapan est tombé 166 mm sur tout le mois et 95 mm ces trois derniers jours. Le barrage, on a dépassé le 100 millions. On attend quelques millions de plus qui vont couler pendant 2-3 jours. On va ramasser 4-5 millions facilement.
Il faut dire que les citoyens, les agriculteurs et les hydrauliciens de la région sont fortement soulagés du fait que le spectre du stress hydrique n'a plus sa raison d'être, ce qui est de bon augure en tout cas pour l'été 2026. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour LGCN 3.
Et cette page coopération, avant de passer à l'actualité internationale, coopération algéro-nigérienne, le ministre de l'industrie pharmaceutique Wassim Kouidri a examiné ce mardi avec le ministre de la Santé du Niger, le colonel-major Garba Hakimi, les voies et moyens même de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, notamment l'approvisionnement du Niger en médicaments et vaccins fabriqués en Algérie. Cette réunion, tenue par visioconférence, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la déclaration d'Alger, issue de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et les technologies de la santé organisée à Alger, c'était en novembre 2025. L'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient se poursuit pour le 18e jour. L'information n'est pas confirmée par Téhéran.
Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, ainsi que le général Gholam Riza Soleimani, auraient été assassinés après des frappes sionistes menées durant la nuit. Après l'assassinat de l'ayatollah il y a plus de 2 semaines, Ali Larijani est apparu comme acteur majeur pour la gestion de la transition. Ali Larijani est qualifié comme l'homme des compromis diplomatiques, notamment avec l'Occident, en ciblant une figure politique de premier plan. L'entité sioniste veut torpiller toute tentative de désescalade dans la région, risque de s'enfoncer dans une spirale de violence sans précédent, nous dit le politologue Abdallah Fahmi. Il répond aux questions de Rabia Slimani.
L'Iran avait tout prévu. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la mentalité des musulmans, et surtout des musulmans chiites. Pour eux, le martyr, c'est un honneur. Ils ont fait une stratégie avant l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Ils ont mis pour chaque responsable 4 suppléants. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est capable de négocier, il l'assassine. Ali Larijani était capable de négocier, comme Ali Khamenei. Avant, c'est lui qui avait répercuté la fatwa de Khomeini d'interdire le nucléaire. Maintenant, c'est fini. La guerre va s'intensifier. Pourquoi? Parce que Israël veut le grand Israël. C'est un projet messianiste. Ils veulent entraîner les États-Unis coûte que coûte. Et Trump, maintenant, il cherche par tous les moyens à s'en sortir. Hier, il y avait les patrons du cartel du pétrole qui sont allés voir Trump pour lui dire que où est-ce qu'on va? Si ça va continuer, ça va être $150 le baril.
Des agressions qui se poursuivent également au Liban. Un soldat libanais est tombé en martyr au sud du pays. Téhéran utilise pour la première fois ce mardi les missiles Al-Qassam. De fortes explosions ont été entendues au centre de l'entité sioniste et Al-Quds occupée. L'ambassade américaine à Bagdad a été une nouvelle fois ciblée. Pour la première fois, la Grande-Bretagne et d'autres pays membres de l'OTAN affichent leur réticence à s'engager militairement dans le Golfe sans cadre légal, une position inédite, confirmée par le Premier ministre d'ailleurs britannique. Keith Starmer a déclaré que le Royaume-Uni ne permettra pas à ses forces soient traînées dans la guerre. On écoute à ce propos cet éclairage de l'analyste politique Guy Mettant. Il répond toujours aux questions de Rabia Slimani.
Pour les Britanniques, c'est assez nouveau que la Grande-Bretagne, qui a traditionnellement été très active dans cette région depuis 2 siècles, soit maintenant sur la réserve. Une décision qui est rassurante. En principe, ce sont les pays riverains qui ont justement la maîtrise ou le contrôle de la navigation sur leurs rives. Cela dit, il existe un droit international maritime qui oblige les puissances à laisser passer les navires des autres pays, puisqu'il s'agit au fond, entre guillemets, d'eau internationale, dans le sens juridique du terme. Mais de toute façon, le droit international dans ce conflit ne joue plus aucun rôle. Ce sont toujours les Israéliens qui ont pris l'initiative. Très difficile de parler de respect du droit international, même dans le détroit d'Hormuz.
Une guerre qui provoque des dissensions au sein de l'administration américaine. Un haut responsable de la lutte contre le terrorisme a annoncé ce mardi sa démission pour protester contre cette guerre menée contre l'Iran, affirmant que la République islamique ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Joseph Kent est le premier haut responsable à démissionner de l'administration Trump pour braquer son désaccord sur la guerre. Dans un contexte de guerre ouverte entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et l'entité sioniste de l'autre, la bataille se joue aussi, en effet, dans l'espace médiatique. Les médias occidentaux sont régulièrement accusés de construire un récit orienté, mettant en avant une lecture erronée du conflit au détriment de sa complexité, une dynamique qui s'inscrit dans une guerre de l'information pour influencer l'opinion publique mondiale, affirme Guy Mettant, président du Geneva Institute for Multipolarity. Il a été contacté par Liester Rini.
Les Occidentaux ont toujours sous-estimé l'Iran. Depuis la révolution de 1979, les Occidentaux ont toujours cherché à présenter l'Iran soit comme un régime terroriste qui aurait multiplié les attentats et voulu, au fond, s'en prendre à l'Occident par toutes sortes de moyens, y compris les plus violents, soit alors ils ont présenté le régime iranien comme un espèce de régime attardé, attaché au passé, comme une théocratie, au fond, surgit des comme si le leadership iranien manquait de légitimité et avait toujours été du mauvais côté de l'histoire. Je pense qu'il s'agit d'une grossière erreur. Je pense que les Iraniens, comme d'ailleurs les Chinois, les Russes, c'est une grande civilisation.
Une escalade militaire et un marché énergétique impacté, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai s'établissait ce mardi à plus de 103 dollars le baril. Retour chez nous, les candidats aux examens de fin d'année fixés sur les dates des épreuves. Le brevet de l'enseignement moyen se déroulera du 19 au 21 mai. Les épreuves du baccalauréat auront lieu du 7 au 11 juin. La journée du 1er, du 2 et du 3 Shawwal, correspondant à la célébration de la fête de l'Eid al-Fitr, seront chômés et payés pour l'ensemble du personnel des institutions d'administration publique, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques et privées, tout secteur et statut juridique confondu. Toutefois, la pérennité du service doit être assurée. Justement, nous nous intéressons ce soir au dispositif spécial fête de l'Eid al-Fitr. 57 000 commerçants seront de permanence. Les commerçants, transporteurs et agents des stations-service seront également à leur porte pour assurer la continuité des services. Les bus Interwilaya continueront d'assurer le service au Graal. Prévoit d'ailleurs 2300 dessertes supplémentaires à travers les différentes gares routières. Le dispositif LAID prévoit également la possibilité d'achat des billets en ligne via l'application Mahatati. Les détails avec Imen Barouk, chargée de communication de Sogral. Elle en parle à Sarah Hafarsas.
2300 départs supplémentaires prévus à travers les différentes gares routières. Et concernant la billetterie, il y a eu une mise à disposition de 364 guichets de vente de billets au niveau national dans les différentes gares routières, dont 148 guichets sont équipés de terminaux de paiement électronique TPE. Et il y a aussi la généralisation de l'application Mahatati à 62 gares routières permettant aux citoyens d'acheter leurs billets en ligne.
Les stations-service seront également ouvertes durant les trois jours de fête, nous dit Farah Mahlous Amraoui, directrice de la communication et des relations publiques de Naftal. Elle a été contactée par Sarah Farsas toujours.
Naftal tient à rassurer que toutes ces stations-service resteront ouvertes et pleinement opérationnelles 24 heures sur 24 et sur l'ensemble du territoire national. Nos équipes resteront mobilisées pour assurer un approvisionnement régulier de tous les produits pétroliers et ce, afin de répondre aux besoins de notre clientèle.
Et très attendu également, ce chassé-croisé habituel sur nos routes. Prudence, vigilance et strict respect des consignes préventives sont les maîtres mots pour arriver à bon port. La protection civile lance d'ailleurs une campagne de sensibilisation sur les risques d'accidents liés à la fête de l'Eid al-Fitr. Younes Djouti.
La vigilance est de mise sur les routes. Le constat est préoccupant. En seulement trois jours durant l'Eid al-Fitr 2025, trois personnes ont perdu la vie et 88 autres ont été blessées. Chaque année, les périodes festives entraînent une hausse du trafic et des comportements à risque, comme nous l'explique le docteur Boutaredmit.
On a choisi de faire une sensibilisation par rapport à cette période où il y a une augmentation du nombre des accidents de la route. Cette période coïncide aussi avec la fin du mois de Ramadan, où on aura une augmentation qui est liée manque de sommeil, la fatigue, et surtout qu'il y aura une augmentation du trafic aussi. Plus de déplacements, plus d'accidents de la route.
Les experts rappellent que la prévention reste la meilleure protection.
Avant de prendre un trajet, un long trajet, de bien vérifier d'abord son véhicule, pneus et tout, de conduire avec prudence. Si on se sent fatigué, il faut alterner si on est chauffeur professionnel. Il faut éviter aussi les conduites impulsives des autres conducteurs.
Des gestes simples, mais essentiels pour éviter le pire, car derrière chaque accident, il y a des familles brisées. Un message fort ressort de cette campagne. Mieux vaut arriver en retard que ne pas arriver du tout.
Et nous arrivons à la dernière escale de cette édition. Sport avec nous, Reda Benagoudjil. Bonsoir Reda.
Bonsoir Walid.
Du football pour entamer cette page. La 24e journée du championnat de Ligue 1 de football a débuté cet après-midi. Victoire de l'Espoir de Mostaganem au dépens du Paradou AC. Olympique Akbou également au dépens du CS Constantine. Une journée qui se poursuivra à partir de 22h avec deux autres rencontres prévues.
Effectivement, cet après-midi, deux rencontres ont eu lieu. Le duel des mal classés est revenu à l'Espérance de Mostaganem face au Paradou Athletic Club par 3-2 grâce à un but marqué dans les arrêts de jeu à la 90e minute plus 4, ce qui permet à l'Espérance de rejoindre son adversaire du jour à la 14e place avec 17 points, à 9 points du premier non relégable. Reste à jouer tous les matchs retard pour y voir plus clair dans ce classement. Dans l'autre match de l'après-midi à Béjaïa, l'Olympique Akbou a battu le Chebeb de Constantine par 1-0, ce qui lui permet de prendre seul la 2e place au classement en attendant les résultats des autres matchs de ce soir et demain. Dans la soirée, À 22h au stade de Douira, le Mouloudia d'Alger qui a enregistré le retour de Khaled Ben Yahia à la barre technique sera opposé à l'USM Khanchla. Une victoire des Mouloudiens leur permettrait de creuser l'écart davantage avec leurs poursuivants. À la même heure, à Oran, le Mouloudia d'Oran affrontera la Lanterne Rouge, le Mouloudia d'Albeit. Le reste des matchs de la 24e journée se dérouleront demain.
En basketball, Rida, match décisif pour la qualification directe au play-off pour le Rouiba Club.
Si Rouiba Club Basket veut rejoindre directement les play-offs, il est impératif qu'ils battent ce soir le NED. Dans le cas contraire, ils devront passer par les play-in au détriment du Mouloudia d'Alger qui se fera qualifier directement au play-off. Le match débutera à 22h à Rouiba.
Et en volleyball, Rida, 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec un choc entre le POC Chlef et le NC Béjaïa.
Effectivement, 5 affiches au programme de ces 16e de finale de la Coupe d'Algérie. À 22h à la salle de Tchaker de Blida, le POC Chlef affrontera le Nasseria de Béjaïa. À Tichy, l'OMK El Milia sera opposé à l'ES El Ulma. À Kharata, l'étoile de Sétif sera opposée au Mesh'al Beledit Béjaïa. À 23h, à Bouzeria, le GS Mselmoun affrontera Raïd Msila. Et à Blida, toujours à 23h, le CS Nadrouma affrontera l'ES Tejnent.
Et on revient au football pour terminer avec la Ligue des Champions d'Europe, 8e de finale retour ce soir.
Oui, début des 8e de finale, retour ce soir de la Champions League. Avec dès 18h45, dans moins de 30 minutes, le Sporting de Lisbonne aura du mal à revenir contre Bodo Glimt, les Norvégiens qui avaient gagné au match aller 3-0. Et à 21h, Chelsea affrontera le PSG, Arsenal, Leverkusen, et Manchester City, le Real de Madrid.
Merci à vous, Reda Benagoudjil, pour toutes ces précisions. C'était là la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Sidali Toubal. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, les couleurs du ciel.